14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Elle est morte à Paris, Olivia de Havilland. Elle était d'origine anglaise. Elle vivait à Paris depuis bien longtemps et elle venait de fêter ses 104 ans. Avec elle, c'est un des derniers grands témoins d'une époque bénie du cinéma qui a disparu. Cette époque, on peut l'appeler l'âge d'or d'Hollywood, tout simplement, avec ses immenses studios, les décors de carton-pâte, les stars glamour et les films à la chaîne. Des films générateurs de rêves pour le public et parfois pour toutes les chevilles ouvrières de cette industrie cinématographique, un véritable cauchemar. Olivia de Havilland a marqué le cinéma de son temps et cet été, les nombreux hommages qui ont été rendus à l'actrice ont justement insisté sur son rôle le plus fameux, celui de la bonne, de l'aimante Mélanie Hamilton d'Autant en emporte le vent, avec ses regards sombres, pleins de compassion, avec ses coiffures sages et ses robes à paniers magnifiées par un technicolore à l'époque nouveau et flamboyant. Ce film, hors de toute mesure, Autant d'emporte le vent, c'est une étape importante de la carrière de l'actrice, mais comme l'ont souligné plusieurs auteurs, on ne peut pas dire que ce soit le moment clé de cette carrière. Il y en a eu d'autres. On ne sait pas tellement ça en France, mais l'actrice, au caractère ferme et bien trempé, a aussi été au cœur d'un combat juridique, combat retentissant qui l'a opposé à la puissance des studios, une affaire à l'allure de combat de David contre Goliath qui devait donner une autre dimension à sa légende.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors pour comprendre ce qui s'est passé, il faut aller à la rencontre d'Olivia aux alentours de 1940. On est juste au lendemain du triomphe d'Autant d'emporte le vent. L'actrice a 23 ans à ce moment-là. Elle est née donc anglaise, je vous l'ai dit, d'une mère au passé de comédienne et d'un père avocat. Il faut vous dire que les Havilland sont une grande famille dont un ancêtre normand a participé à la conquête de l'Angleterre en 1066. C'est la gentry. Même si elle vient d'être battue pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1940, on peut dire d'Olivia qu'elle est en pleine ascension. Elle s'est fait un nom depuis 5 ans, notamment grâce à d'agréables films d'aventure aux côtés du bondissant Errol Flynn. Selon l'expression de William Stadhem dans Vanity Fair, Errol et Olivia étaient les Fred et Ginger des films d'action. C'est vrai qu'il y avait deux grands couples mythiques dans cet Hollywood de l'âge d'or. Ils ont triomphé dans Les Aventures de Robin des Bois, de Michael Curtis. Olivia est devenue une vedette de la Warner. On peut dire qu'elle s'est assez vite fatiguée des rôles de femmes méritantes, de femmes sans grand relief. Elle, ce qu'elle veut à ce moment-là, c'est jouer des émotions plus complexes. C'est s'essayer à des registres un petit peu plus risqué. Et son studio, disons-le, pour l'instant fait la sourde oreille. Ça ne les intéresse pas, les gens, ces histoires-là. Ces rôles complexes sont surtout réservés à la grande star du studio, qui est Bette Davis, bien entendu. Et avec sa beauté douce, Olivia, avec ses belles manières aussi, elle ne fait pas de tapage, voyez. Eh bien, elle doit faire, lui dit-on, ce que le public attend d'elle, c'est-à-dire incarner encore, encore et toujours la sagesse, la bonté, bref. Pas question d'aller abîmer cette image qui rapporte tellement au studio. Alors les rôles qu'on lui propose, à peu d'exceptions près, vont se suivre et se ressembler. Olivia est d'autant plus agacée qu'elle a vu ainsi un certain nombre de partitions superbes lui échapper. On a pensé un temps qu'elle allait incarner l'héroïne de Rebecca d'Alfred Hitchcock. Ça aurait été formidable, ça. Eh oui, mais la Warner avait autre chose en tête pour elle. À qui est-ce que revient le rôle de se révéler face à la caméra de Hitchcock ? Eh bien, c'est Joan Fontaine. Actrice qui, même si elle a changé de nom, n'est autre que la sœur cadette d'Olivia. Eh oui, c'est la petite sœur qui joue dans le rôle qui lui était, pensait-elle, destinée. Elles n'ont qu'un an d'écart en plus. Elles ont toujours eu des relations difficiles. Ce genre de péripéties autour de rôles disputés va encourager ce qui devient une véritable mise en concurrence entre les deux sœurs. Et voilà qu'à l'approche des Oscars 1942, on est en pleine guerre, mais les Oscars continuent, tambour battant, les deux sœurs reçoivent une nouvelle qu'on peut supposer à la fois très agréable et franchement pénible, elles sont nommées face à face dans la catégorie meilleure actrice. La presque blonde Joan Fontaine pour Soupçon, encore un film d'Alfred Hitchcock, et la presque brune Olivia pour Le joli par la porte d'or, pour lequel elle avait été prêtée, si l'on peut dire, à un autre studio. Vous savez, c'était toutes les affaires, toutes les combines entre les majors de l'époque. Bien sûr, la cérémonie est assez tendue. On les installe l'une à côté de l'autre pendant le show. Vous imaginez l'ambiance, les personnes les mieux informées guettent la moindre étincelle. Or, ce soir-là, au moment où le nom de la gagnante est dévoilé, c'est Joan qui doit se lever de son siège. Je cite Antoine Cyr dans Hollywood, la cité des femmes. Il nous dit « Lorsque Joan est proclamée lauréate, Olivia lui serre les mains et crie « Nous l'avons eue !» La gagnante réagit assez froidement, ce qu'elle justifiera plus tard par le déplaisir d'avoir gagné contre sa sœur. Bon, ce ne sera pas la dernière incompréhension entre les deux actrices. Olivia, en attendant, s'irrite encore de la pauvreté des rôles que son studio veut bien lui assigner. Et en 1943, c'est la date de la fin de son engagement avec la Warner, elle décide de passer un peu à autre chose. Elle n'est pas passive, elle a l'audace de décliner des scripts. Bien sûr que le studio punit cette attitude. Il lui inflige des suspensions. Elle ne va pas jouer les rôles auquel elle aspirait. On reste dans cette ambiance de bras de fer jusqu'à ce que, enfin, le contrat touche à sa fin. Donc la date de la fin du contrat, c'est 43. Là, Jack Warner a encore des exigences. Allant croire, le contrat de l'actrice doit être rallongé du temps de ses interruptions de travail. Et ben oui, après tout, c'était écrit, donc il va aller jusqu'au bout. Pour l'actrice, c'est une chose qui n'est pas tolérable. Et à ce moment-là, elle décide de secouer le joug de la Warner. Puisque c'est ainsi, eh bien elle décide que tout cela se réglera devant un juge. Un extrait de la bande originale des aventures de Robin des Bois, le film de Michael Curtiz, une bande originale signée Korngold.
Vous écoutez Radio Classique.
Vous imaginez un peu le cran qu'il faut à Olivia de Havilland en 1943 pour se lancer toute seule dans un procès contre la gigantesque Warner. Jusque-là, la loi des studios s'est imposée à tout le monde. Et quand, dans les années précédentes, il est arrivé à certains acteurs d'essayer de défier d'une manière ou d'une autre ces mastodontes que sont les grands studios, évidemment, ils en ont affronté les conséquences qui ont été rudes. À Hollywood, certains ne donnent pas cher de la peau d'Olivia de Havilland en se lançant dans cette démarche aventureuse alors qu'elle est dans les plus belles années de sa carrière. Elle a 27 ans à l'époque. Elle risque de se voir tout simplement fermer la porte de tous les studios. Il n'empêche, elle est décidée, Olivia. Les interminables années de son contrat sont écoulées. Elle se dit qu'il est grand temps pour elle de s'en libérer. Il n'y a pas de discussion possible. Et puis c'est la seule façon, peut-elle penser, de redonner de l'intérêt à sa filmographie. Elle dégote à ce moment-là un avocat qui a plus d'une carte dans ses manches, qui fait des effets de manche, si je puis dire, dans un pays où on n'a pas de robe d'avocat. Le nom de l'avocat en question, c'est Martin Gang. Pour défendre sa célèbre cliente, cet homme-là a une stratégie. C'est encore Antoine Cyr qui nous l'explique. Il entend s'appuyer sur l'article 2855 du Code du travail californien, article conçu à l'origine pour les travailleurs agricoles et qui limite à 7 années tout contrat à durée déterminée. Après avoir examiné ce texte, l'actrice est convaincue, comme son avocat, qu'il peut aussi s'appliquer aux acteurs. La mobilisation de Jack Warner contre elle est féroce. Le patron du studio sent que derrière ce procès, c'est tout l'appareil d'exploitation des comédiens qui est menacé. La plainte d'Olivia, déposée pendant l'été 1943, est bientôt jugée par 2 premiers tribunaux et c'est elle qui gagne cette première manche. Alors c'est qu'une étape, hein, parce que bien sûr, Jack Warner n'entend pas en rester là. Il dispose d'une puissance de feu absolument terrible. Il va porter l'affaire à l'échelon judiciaire supérieur. Et l'échelon supérieur, c'est carrément la Cour supérieure de Californie, qui va se saisir de l'affaire au cours de cet automne. Alors là, il y a de longs mois pour que l'affaire avance et à la fin de l'hiver 1945, on est sorti de la guerre à ce moment-là, on aboutit à un arrêt incontestable, la Warner est déboutée. L'arrêt de la Cour qui vient enrichir la jurisprudence restera dans tous les manuels de droit américains comme la Al Haviland Law. Vous imaginez, elle fait jurisprudence, Olivia. Thomas Chass, dans The Genius of the System, nous dit « Ça a été un moment critique dans l'histoire de Hollywood. Une victoire significative pour les grandes stars et un immense recul pour les studios. Plus jamais la Warner ou tout autre studio ne pourrait jouer sur les temps de suspension à la fin d'un contrat, empêchant de cette façon un artiste de s'en aller et de devenir freelance. Olivia a gagné. Oh, c'est pas qu'elle a gagné. La vérité, c'est qu'elle a triomphé, tout va bien qui finit bien, si j'ose dire. Ça ressemble à une victoire à la Pyrrhus, cette histoire, puisque Jack Warner a tout mis en œuvre pour faire payer à Olivia son affront. Et vous imaginez bien qu'il ne va pas s'embarrasser d'élégance. Il ne fait pas dans la mesure, Jack Warner. Il a enjoint les autres studios et toutes les personnes qui seraient susceptibles d'employer la star de ne pas le faire. Le système hollywoodien est en train de se solidariser contre Olivia de Havilland. C'est comme un piège qui se referme sur elle. Elle pouvait s'y attendre et dès la période du procès, elle avait pris son parti de ce qui l'attendait. Rappelons qu'on est en pleine guerre à l'époque, hein, et puisque l'actrice risquait de ne plus être en position de soutenir les Américains en les distrayant avec ses films, eh bien, elle va s'y appliquer autrement. Olivia de Havilland propose ses services à l'US Hall, l'institution patriotique qui organise des spectacles pour entretenir le moral des troupes, raconte Antoine Cyr. Elle parcourt ainsi les camps d'entraînement de l'Alaska jusqu'au Pacifique Sud, au grand dam de Jack Warner, bien sûr. Ces incitations au boycott de l'actrice sont fraîchement accueillies par les autorités militaires qui, elles, sont ravies qu'une des stars d'OTAN en emporte le vent se montre si présente auprès des soldats. C'est quand même très bien joué, elle est douée cette Olivia. Une démarche qui témoigne d'un engagement par ailleurs tout à fait sincère, mais on peut penser que du point de vue de la communication, elle a quand même elle a bien joué. Elle impose son image de femme de principe, dévouée, engagée, tandis que les manœuvres de Warner apparaissent comme très douteuses et vraiment pas fair play. Certes, l'actrice rebelle voit défiler des mois qui auraient été précieux. Tout ça se fait loin des studios. Hein. Il n'est pas question pour elle de mettre les pieds sur un plateau. Mais pour autant, sa popularité est intacte. Il n'est pas question pour elle d'entrer dans je ne sais quelle retraite. Au contraire, le public est là qui la réclame et qui l'acclame. Quant au milieu des acteurs, on peut dire qu'il est dans un premier temps un peu déstabilisé par ce qui se passe, mais il n'en est pas moins reconnaissant à Olivia du combat qu'elle a mené au nom de tous. Est-ce que ça va être assez pour la faire sortir de l'espèce de liste noire sur laquelle Jack Warner a pourtant bien l'intention de la maintenir. Le grand Leonard Slatkin, à la tête de l'Orchestre symphonique de Saint-Louis, dirigeait cette bande originale signée Aaron Copland pour le film L'héritière de William Wyler, dont je vais vous parler dans un instant.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Pour Olivia de Havilland, c'est la traversée du désert, bien sûr, mais vous doutez bien que cette traversée du désert ne pouvait pas s'éterniser. Après tout, on est à Hollywood, on est dans un pays où la concurrence est la règle absolue. Olivia est une actrice célèbre, réputée, acclamée. On peut penser que son combat contre la Warner, en la montrant d'ailleurs extrêmement décidée, mordante, a contribué à faire évoluer l'image qu'elle renvoie et que désormais les producteurs vont être un peu plus disposés à lui confier des rôles psychologiquement complexes. Alors, parier sur elle, c'est sans doute, se dit-on, le bon calcul, et on se demande quelle est la grande compagnie qui va s'y coller, et c'est la Paramount qui se décide. Olivia est engagée à la fin de la guerre, après 2 ans sans avoir tourné. Elle va être engagée pour « À chacun son destin » de Mitchell Lazen. Elle incarne là une mère qui, ayant été obligée de laisser son enfant à une autre, cherche à renouer le lien qui a été tellement distendu, mais des décennies plus tard. Ce mélodrame n'est peut-être pas le film qui est le mieux vieilli parmi ceux que l'on trouve à la filmographie d'Olivia de Havilland, mais à l'époque, c'est un film qui est salué. Les tickets d'entrée se vendent très bien. La critique applaudit les inflexions du jeu de l'actrice, cette espèce de nouvelle Olivia qui est née, et de nouveau, la voilà nommée pour un Oscar. On est en mars 1947 dans la salle de gala au milieu du gratin hollywoodien. On attend fébrilement. La robe claire qui découvre les épaules d'Olivia est une faible armure face à l'émotion du moment. Les catégories défilent et puis on arrive évidemment à la catégorie reine, la meilleure actrice. Et cette fois c'est bien son nom qui est prononcé. Isabelle Custodio, dans un épisode de la série Be Kind Rewind, qui est consacré à Olivia de Havilland, dit « Sa victoire ne symbolisa pas seulement son grand retour, mais a aussi couronné son statut d'actrice principale, démontrant que la page des anciens rôles d'ingénue était tournée et l'était de manière permanente. » Alors, Olivia a maintenant son Oscar en main. Vous imaginez bien que sa sœur, Joan Fontaine, va devoir venir la féliciter. Et cette fois, c'est Olivia qui l'ignore et qui passe son chemin. C'est la réponse du berger à la bergère, direz-vous. C'est peut-être pas très noble, mais c'est comme ça. Comme le note William Stadiem, Joan aurait eu peu avant une phrase assassine sur le récent mariage d'Olivia avec un auteur, Marcus Goodrich. « Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il a eu 4 femmes et a écrit un livre. Dommage que ce ne soit pas l'inverse, dit-elle. » En fait, malgré des essais de raccommodement, on peut dire des deux sœurs qu'elles resteront fâchées pour de bon, pour des décennies.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Maintenant qu'Olivia a conquis sa liberté, qu'elle est vue comme capable de tenir un film sur ses épaules et de le porter et de l'incarner, elle n'est pas décidée, bien sûr, à laisser passer sa chance. Après le succès d'À chacun son destin, elle va enchaîner ce qu'il faut bien appeler des tours de force. On la voit incarner un double personnage de jumelle, tout en subtile nuance, vous imaginez ce genre de rôle. Et puis une femme en lutte contre la maladie mentale en 1949 dans le film L'héritière de William Wyler, dont vous venez d'entendre la musique. Elle est une célibataire fortunée, mais qui a un physique ingrat et un cœur un peu sec et qui hésite à croire aux sentiments d'un homme qui est trop beau pour elle et qui est incarné par le sublime Montgomery Clift. Ce rôle va lui permettre d'être encore nommée comme meilleure actrice pour la cérémonie 1954 des Oscars. Et encore une fois, c'est elle qui gagne. C'est simple, rien ne paraît pouvoir arrêter Olivia de Havilland. Rien et personne. Même Joan Fontaine, qui pourtant se donne beaucoup de mal, et qui elle-même joue dans quelques très beaux films, personne n'arrive à l'arrêter. Et pourtant, dans les années 50, Olivia décide de changer de vie. Elle va emménager en France et à l'approche de la quarantaine, elle va se marier avec Pierre Galante, le grand homme de Paris Match. Vous savez, elle va avoir une fille avec Pierre Galante d'ailleurs. On la voit moins sur grand écran. même si elle connaît encore des succès, dont Chut, chut, chère Charlotte de Robert Aldrich, ou des rôles remarqués à la télévision. Elle jouera à la télé jusque dans les années 80. Et quand en 2003, l'Académie des Oscars, qui doit fêter ses 75 ans d'existence, décide de réunir sur scène une multitude de lauréats de son histoire, vous imaginez bien qu'il n'y a pas un millier d'actrices capables de porter un tel événement, une telle cérémonie. C'est Olivia qui s'impose comme le choix logique pour aller présenter la séquence. Au prononcé de son nom, elle paraît, on la voit arriver, très émue bien sûr, dans une robe bleue. Et la salle à ce moment-là va lui faire ce que les Américains appellent une standing ovation. Tout le parterre de stars qui est là dans la salle se lève et l'acclame pendant un très long moment. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Qui ces gens-là saluent-ils ? Est-ce que c'est l'interprète inoubliable d'Autant en emporte le vent ? Est-ce que c'est celle qui a su rendre immortel un film comme L'Héritière ? Ou est-ce que c'est cette pionnière déterminée qui, alors que tout le monde lui conseillait le contraire, a su prendre en main sa carrière et se lancer dans le plus incroyable des bras de fer face à l'une des majors d'Hollywood ? À mon avis, c'était un peu les deux. On saluait l'actrice, mais on saluait aussi la personne, cette personne qui nous a donc quittés le 26 juillet dernier. Ici, si je puis dire, à quelques encablures de ce studio, dans ce Paris qu'elle avait adopté comme sa nouvelle ville. Pour tout vous dire, la dernière fois que j'avais eu, c'était sur une autre antenne, l'occasion de parler à la radio d'Olivia de Havilland, elle m'avait envoyé un message pour m'en remercier. Inutile de vous dire que ça fait partie des moments qui marquent dans une carrière. J'avais été très fier. Eh bien, cette fois, évidemment, je n'attendrai pas de message.
Vous écoutez Radio Classique.